À voix nue, Caroline Brouet.
François Molins. J'ai été au service de la justice de mon pays pendant 46 ans.
Cinquième épisode, le magistrat et le politique. Bonjour François Molins.
Bonjour.
Alors comme je l'avais annoncé à la fin du quatrième épisode, nous allons parler pour ce dernier épisode de nos avoies nues, des rapports entre justice et politique, dont vous dites, et vous n'êtes pas le seul, qu'ils ont été toujours compliqués. Est-ce que c'est inhérent à notre démocratie? Est-ce que c'est un dysfonctionnement? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? De toute façon, ça restera compliqué.
Je pense que ça restera compliqué. Ça restera toujours compliqué parce qu'il y a un réflexe naturel, je pense, de la part des politiques, lorsqu'on s'intéresse à eux dans le cadre d'affaires judiciaires, qui consiste finalement à toujours vouloir se défendre en accusant, j'allais dire, les magistrats de sortir de leur rôle et finalement en instrumentalisant les dossiers dont ils sont saisis ou en instrumentalisant les poursuites. Donc toujours essayer de mettre en cause et de discréditer l'action des magistrats en essayant de faire penser qu'ils agissent à des fins politiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le système de défense de l'ensemble des politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite.
En même temps, il est question depuis très longtemps de l'indépendance du parquet. Est-ce que ça ne résoudrait pas un problème majeur ?
Le parquet ne peut pas être totalement indépendant, parce que y a deux facettes dans la mission du parquet. Il y a la politique pénale qui doit mettre en œuvre et la gestion des affaires individuelles. Sur la politique pénale, il ne peut pas être totalement indépendant, puisqu'il est là pour mettre en œuvre la politique pénale qui est décidé par le ministre de la Justice et le gouvernement. Donc de ce côté-là, c'est pas une question d'indépendance, puisque c'est même pour cette raison que les gens du parquet sont placés sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Par contre, il faut effectivement s'assurer que pour que les parquets soient totalement impartiaux et qu'il n'y ait aucun risque de suspicion dans la gestion des affaires individuelles et des enquêtes, il faut s'assurer que un procureur n'est nommé à la fonction qu'il occupe qu'en raison de ses qualités personnelles et professionnelles, et non pas en raison de ses amitiés avec le pouvoir. C'est pour ça qu'en réalité, plutôt que de parler d'indépendance, je pense qu'il est plus juste de parler de renforcement des garanties statutaires de nomination. Et il faudrait en réalité arriver à, au a minima, à un système dans lequel le gouvernement serait tenu par les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, quand un procureur est nommé, le projet est soumis au Conseil supérieur de la magistrature qui va donner un avis. Aujourd'hui, la Constitution prévoit que c'est un avis simple. Donc, le gouvernement pourrait passer outre, en théorie. Il ne le fait pas depuis 15 ans, mais il pourrait, s'il le voulait, passer outre. Il faudrait avoir un avis conforme qui lie le gouvernement. Ça serait vraiment le minimum minimum. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait même aller au-delà et qu'il faudrait confier au CSM le soin de choisir lui-même les procureurs généraux et les gens du parquet général à la Cour de cassation. Ça n'empêcherait pas l'application correcte et loyale de la politique pénale, parce que ça resterait une obligation déontologique pour les procureurs de l'appliquer. Mais par contre, ça permettrait de supprimer définitivement tout venin de la suspicion. Et franchement, un choix de procureur par le CSM ne serait pas plus mauvais qu'un choix de procureur par la direction des services judiciaires.
Le conseiller supérieur de la magistrature, je rappelle, le CSM bien sûr. Alors vous êtes allé chercher des noises en même temps, vous vous êtes pas facilité la tâche, François Molins. Parce que quand vous avez pris la tête du parquet de Paris en novembre 2011, vous sortiez des cabinets ministériels. Ouais. Vous avez fait ce que vous appelez dans vos mémoires un pas de côté pendant deux ans, ouais, un peu plus de deux ans, puisque vous avez rejoint les cabinets de la ministre Michèle Alliot-Marie, puis de Michel Mercier, sous la présidence de Nicolas, ouais, Sarkozy. Bon, aujourd'hui, vous qualifiez cette expérience de parenthèse, mais c'est vrai que ça vous a valu un certain nombre de critiques, notamment quand vous avez pris la tête du parquet de Paris. Ça a suscité une petite polémique dans les sphères politiques, médiatiques et même judiciaires. On se souvient même du candidat François Hollande qui avait reproché à Nicolas Sarkozy votre nomination lors du face-à-face télévisé du 2 mai 2012 entre les deux tours de la présidentielle, vous instrumentalisant, vous utilisant. Mais est-ce que vous avez compris quand même que ça posait problème, puisqu'on dit toujours que les rapports entre justice et politique et en particulier particulier du parquet, et vous, hop, vous mettez les mains, enfin même pas les mains, les pieds,
la politique. Il faut faire un petit retour en arrière. Alors d'abord, moi, j'ai jamais été dans la politique. Hein, j'ai jamais appartenu à un parti. Je suis pas encarté ni politiquement ni syndicalement. Je suis pas franc-maçon, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui croient qu'on arrive à ce niveau de la hiérarchie toujours parce qu'on est franc-maçon. Je suis pas encarté où que ce soit. Et j'ai été en fait choisi pour être directeur de cabinet à l'époque par Madame Alliot-Marie parce qu'elle avait apprécié ma façon de travailler avec la police. Et à l'époque, moi, j'avais accepté, après avoir beaucoup douté et beaucoup hésité, j'avais accepté parce que je m'étais dit qu'avec mon expérience, je pourrais peut-être apporter quelque chose. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des magistrats dans le cabinet, parce que c'est bien d'entendre leur voix.
Ça explique le fonctionnement de la justice politique.
Oui, exactement. Ah oui. On essaie d'expliquer, alors parfois ils comprennent, parfois ils comprennent pas, mais au moins c'est une façon de dire ce qui doit être dit. Puis après le politique décide. Le terrain m'a manqué assez vite et j'ai voulu effectivement revenir au parquet de Paris. Je sais pas si je referai l'expérience honnêtement, mais par contre ce que je sais c'est que ces 2 ans et demi m'ont énormément apporté parce que ça m'a permis de comprendre de l'intérieur le fonctionnement de l'État et le fonctionnement des politiques et ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé au parquet de Paris. Donc cette polémique qui finalement me fait passer pour quelqu'un qui va téléguidé par la droite pour arriver au parquet et classer un maximum d'affaires sensibles intéressant la droite, j'ai très mal vécu, hein, ça va de soi. J'ai été blessé vraiment dans mon amour-propre. Hein. On avait beau me dire que mes qualités personnelles n'étaient pas en cause, j'ai pas du tout apprécié cette campagne, mais en réalité ça m'a servi parce que comme je suis du mode résilient, plus on me tape dessus, plus j'ai envie de rebondir. Je me suis juré que j'allais leur montrer en fait de quoi j'étais capable et que l'action publique en matière économique et financière, elle serait exercée jusqu'au bout et à l'égard de tout le monde. Oui. Et j'ai eu des affaires en réalité qui ont couvert l'ensemble du spectre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite.
Oui. Parce que nous parlions dans l'émission précédente hier des attentats oui. au cours de cette période, mais effectivement, en 7 années au parquet de Paris, vous avez eu aussi à gérer un certain nombre d'affaires politico-financières oui. et politiques. La plus connue, peut-être la plus importante, ça a été l'affaire Cahuzac, oui, oui. Hein, après la demande de Mediapart d'ouvrir une enquête. Là, vous dites quand même, on va peut-être rappeler les éléments, mais vous dites quand même, François Molins, que vous avez subi quelques pressions, mais des pressions subtiles.
Subtiles.
C'est quoi des pressions subtiles ?
Les pressions subtiles, de toute façon, on est en plus à une époque où c'est un peu compliqué à expliquer. On peut pas ouvrir comme ça, tout seul, à cette époque-là, une enquête pour fraude fiscale, parce qu'il existe à l'époque ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Il faut avoir l'avis favorable de la commission des infractions fiscales pour faire ce genre de choses. Nous, on est arrivé à ouvrir une enquête en utilisant une subtilité juridique, on est parti sur le blanchiment effectivement de fraude fiscale. Bercy n'aurait jamais donné le feu vert à l'ouverture d'une enquête contre le ministre du budget, c'était évident. Il y a eu après des petites pressions dans la mesure où, je le raconte, hein, on a reçu une plainte pour diffamation contre un membre du gouvernement. On l'a classé, donc on ne s'est pas laissé avoir, parce qu'effectivement, ça n'avait rien à voir avec l'exercice ministériel, puisque ces faits avaient été commis à une époque où M. Cahuzac n'était pas ministre du budget. Donc la plainte du gouvernement ne tenait pas. On a classé. Et puis après, effectivement, on avait bien compris qu'il y avait des informations qui étaient distillées à la presse sur le fait que l'échange de renseignements fiscaux entre l'administration fiscale française et suisse ne corroborait pas tout ça, etc. Mais bon, on va dire que c'est de bonne guerre, hein. On a fait avec. Mais ce qui me paraît important dans ce genre de dossier, c'est que, et ça permet aussi de relativiser les critiques qu'on a, quoi qu'on fasse, quelle que soit la décision qu'on prise, on sera critiqué. Si sur Cahuzac, j'ai pu être critiqué, encore que peut-être pas tant que ça, mais si j'avais classé, j'aurais été critiqué aussi parce qu'on m'aurait accusé de protéger le pouvoir en place.
C'est une position intenable en même temps. Donc oui, c'est vous qui le faites en votre âme et conscience.
Il faut l'accepter de toute façon. Donc vous faites votre travail. Vous saurez de toute façon que d'un bord ou d'un autre, vous aurez de toute façon des critiques, quoi que vous fassiez, quoi qu'il arrive.
Est-ce que vous avez eu l'impression, malgré tout, dans cette histoire, qui a quand même abouti à la démission du ministre du budget, ouais. l'enquête judiciaire ouais, abouti ouais. à la démission ouais. du ministre du budget, donc de vous être laissé ou fait dépasser, déborder, est-ce que vous pensiez que ça aboutirait à ça.
Moi, je sais très bien les conséquences politiques qu'il va y avoir à partir de la décision que j'ai prise. C'est évident, c'est un tsunami. Un ministre du budget, dont on demande qu'il a eu des comptes à l'étranger après avoir juré les yeux dans les yeux pour reprendre sa formule devant la représentation nationale que c'était faux, bon, ça ne peut pas rester sans conséquences. Donc, on sait très bien qu'au bout du compte, si l'enquête évolue favorablement, ça ne sera pas tenable pour le gouvernement politiquement. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais pour autant, effectivement, on a eu véritablement conscience avec les collègues de vivre un moment dans lequel la justice avait un rôle très fort, et un positionnement qui entraînait des conséquences très lourdes sur un plan politique. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est aussi ce dossier, Cahuzac, qui a provoqué la création à l'été 2013 du parquet national financier. Alors, vous, vous dites que vous l'avez mal vécu,
Oui, bien sûr, parce que, mais j'allais dire, il y a eu des conséquences très positives. La première, c'est effectivement la loi sur la transparence de la vie publique. La création de la haute autorité de la transparence de la vie publique est une excellente chose. Le PNF, c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai mal vécu, parce que j'y ai vu, moi, une sorte de sanction déguisée contre l'action qui avait été la nôtre, parce que c'est vrai que la création du PNF s'est traduite par la dépossession du parquet de Paris de tous les dossiers les plus sensibles qui suivaient. Donc, c'est normal que je l'ai vécu comme ça, sur le coup. J'ai résisté autant que j'ai pu, mais après, j'ai essayé d'agir en magistrat loyal et j'ai eu les meilleures relations du monde avec Éliane Houlette, la procureure nationale financière, avec qui je suis devenu ami et avec qui je me suis très très bien entendu. Il n'y a jamais eu la moindre dispute entre nous sur des saisines de dossiers. Il n'y a jamais eu le moindre tracas là-dessus.
Parmi les autres affaires, François Molins, notable, il y a eu l'affaire Tapie. Vous dites que dans cette affaire, Nicolas Sarkozy vous a convoqué dans son bureau pour vous demander vos intentions sur ce dossier. Alors, si c'est pas une pression indirecte, ça.
Oui, bien sûr.
Par exemple.
Je l'ai pris comme ça. Après, c'est de façon suffisamment subtile et intelligente pour ne pas demander quoi que ce soit. Mais bon, on sait très bien, en réalité, qu'est-ce que le politique attend en réalité en termes d'issue de l'enquête. Mais il faut aussi rappeler que ça serait pas possible aujourd'hui, ce genre de comportement. Ça se situe en 2012, donc avant la loi adoptée par le Parlement qui va interdire aux politiques de donner des instructions dans les affaires individuelles. Je pense qu'aujourd'hui, un politique n'aurait pas l'idée, compte tenu de cette loi, de convoquer un procureur pour venir se faire expliquer les tenants et les aboutissants d'une affaire individuelle. Parce qu'il ne peut plus donner instruction.
Donc c'est un progrès, ça?
Donc c'est un progrès très important.
Il y a eu l'affaire Big Malion également, qui cette fois a touché la droite, a impliqué le président de l'UMP de l'époque, Jean-François Copé. Oui. Cette affaire me permet de vous poser une question sur la décision qui a été la vôtre, aussi bien d'ailleurs dans l'affaire Cahuzac que dans l'affaire Big Malion, d'ouvrir une enquête sur la base d'articles. Ouais. Alors, dans l'affaire Cahuzac, c'était Mediapart. Dans l'affaire Big Malion, c'était Le Point. Est-ce que c'est suffisant? Enfin, sur quels critères?
C'est la traduction d'un phénomène intéressant et qu'on ne peut pas ignorer, du développement du journalisme d'investigation. Cette délinquance économique et financière, elle est occulte tout le temps. Elle pourrait être détectée par un certain nombre d'organismes de contrôle. Aujourd'hui, il y a la Haute Autorité de Transparence de Vie Publique. Il y a des commissions de financement des partis politiques. Il y a des commissions qui surveillent le financement des campagnes électorales. Mais si ces organes de contrôle ne détectent rien, vous avez aussi à côté des journalistes qui, aujourd'hui, se sont spécialisés sur ces questions et qui sont capables de faire un travail d'investigation qui peut être très sérieux et qui peut comporter des recoupements très intéressants. Qu'est-ce qu'on dirait si un procureur, face à ce genre d'article, faisant état de faits vérifiés, ou en tout cas qui méritent de l'être, qu'est-ce qu'on dirait d'un procureur qui ne ferait rien? Moi, je pense que face à des articles documentés qui comportent des éléments qui, effectivement, permettent d'accréditer la commission d'une infraction, le devoir d'un procureur, c'est de vérifier. C'est pour ça que dans ce cas de figure, sur Cahuzac et surtout sur Big Malion, c'est un article du Point que je découvre chose qui, j'achète Le Point et je lis cet article. Donc je l'ai découpé et lorsque je suis revenu à Paris, j'ai pris un soit transmis que j'ai adressé à la police en lui demandant de faire une enquête. Je pense honnêtement que j'ai bien fait, je referai pareil. Et simplement, les enquêtes qu'on fait dans ce cas-là sont peut-être plutôt des enquêtes en réalité d'abord de crédibilité. C'est-à-dire qu'on ne déploie pas des moyens massifs. L'esprit de l'enquête qu'on demande, c'est de vérifier si les éléments donnés dans l'article sont effectivement crédibles. Et si effectivement ils le sont, à ce moment-là, on passe à un stade ultérieur avec une enquête beaucoup plus approfondie. C'est ce qu'on a fait sur Cahuzac, c'est ce qu'on a fait sur Big Malion. Et en réalité, on s'est pas trompé, puisqu'on est arrivé effectivement à de véritables scandales financiers. Donc au bout du compte, moi j'estime que dans ce cas de figure, le parquet de Paris a fait son travail et l'a bien fait.
Bon, il y a une affaire dont on ne peut pas faire l'impasse, François Molins, dans cet épisode consacré aux relations entre la justice et la politique, d'autant que dans vos mémoires, vous vous en expliquez très longuement. C'est le différend que vous avez eu avec Éric Dupond-Moretti, qui est à ce jour où nous enregistrons en mars 2024, encore garde des Sceaux, ancien avocat, qui a été mis en examen pour avoir fait pression sur des magistrats anti-corruption et qui a finalement été relaxé en novembre 2023 par la Cour de justice de la République après ce qu'il faut bien appeler un interminable feuilleton. C'est une affaire personnelle entre vous et
non, vous ? Non, c'est pas une affaire personnelle. Moi, j'avais aucun compte à régler. Hein. Je connaissais pas M. Dupond-Moretti. Je n'ai jamais eu à ferrailler avec Maître Dupond-Moretti à des audiences. Je ne le connais pas. La seule fois où j'ai eu un contact avec lui, ça a été pour m'occuper de lui parce qu'il était victime d'une affaire d'atteinte au système de traitement automatisé des données. Il y avait eu une intrusion informatique dans son cabinet et il y avait une plainte. Et j'avais pris la peine de l'appeler, donc très courtois, pour lui expliquer qui j'avais saisi de l'enquête et comment l'enquête allait se dérouler. Donc vous voyez, je n'ai aucun contentieux avec ce monsieur.
Et pourtant, vous avez mal vécu cette histoire. Alors, bon, lui, il a été accusé d'avoir profité de sa fonction, une fois à la tête du ministère de la Justice, pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat, ce qu'il a contesté. Les plaintes dénonçaient des situations de conflit d'intérêts depuis son arrivée place Vendôme. Et en même temps, de votre côté, vous, vous avez été... accusés, disons, mais les contempteurs étaient rares, mais enfin, ils étaient quand même présents, et souvent des anciens défenseurs de Dupond-Moretti quand il était avocat pénaliste, et en estimant que vous, en tant que magistrat, vous n'aviez pas fait preuve de l'objectivité nécessaire dans ce cas-là, notamment parce que vous avez signé avec Chantal Arens, qui était alors première présidente de la Cour de cassation, et il faut rappeler qu'à ce moment-là, vous étiez procureur général près de la Cour de cassation, une tribune dans Le Monde qui prenait position. Et donc là, vous sortiez de votre devoir de réserve. Bon, et puis les mauvaises langues disaient que vous, en fait, vous vouliez être ministre à la place du ministre, etc. Bon, voilà. Mais vous estimez nécessaire de vous expliquer longuement, comme si vous avez besoin de prouver quelque chose.
Je pouvais pas ne pas parler de ce dossier dans le livre que j'écrivais. C'était impossible de pas en parler. Et donc j'ai pris le parti, effectivement, d'avoir une présentation la plus factuelle possible de cette affaire, dans laquelle je commence par rappeler le jugement de relax, hein, que je rappelle aussi à la fin. Donc il n'y a pas de problème là-dessus avec ce verdict d'innocence. Mais j'ai voulu, j'allais dire, compte tenu des procès d'intention qui m'ont été faits, reprendre le fil de ce qui s'était exactement passé pour montrer en réalité comment une affaire qui avait été maltraitée à la base et qui n'aurait jamais dû exister, et je vais vous expliquer pourquoi, était arrivée finalement à une sorte de blocage institutionnel qui avait conduit finalement à une absence totale de communication entre les chefs de la Cour de cassation et le ministère pendant plus de 2 ans. Hein, voilà. Voilà ce que j'ai voulu montrer en réalité. Cette affaire, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, elle n'aurait jamais dû arriver si les gens avaient fait leur travail. Parce que les conflits d'intérêts de M. Dupond-Moretti, qui étaient réels, qui ont d'ailleurs été constatés par la décision de la Cour de justice, hein, qui dit bien qu'il y a tous les éléments matériels
du mais pas l'intention.
De prise illégale d'intérêt, mais pas d'intention, ces conflits, ils étaient connus. Ils sont connus du gouvernement lorsqu'il est choisi, ils sont connus des autorités qui le nomment, et ils auraient dû être traités par le secrétariat général du gouvernement et par la haute autorité de la transparence de la vie publique, qui aurait dû, si elle avait fait son travail correctement et rapidement, dû prendre une injonction pour imposer au gouvernement de prendre très rapidement un décret de déport pour imposer à M. Dupond-Moretti de se retirer des dossiers dans lesquels il aurait été face aux magistrats avec lesquels il a vu des bisbilles précédemment. Si ça avait été fait, notamment au mois de juillet, au mois d'août, rien ne serait arrivé.
Donc les garde-fous, ils existent.
Les garde-fous, ils existent, mais ils n'ont pas fonctionné.
Ils n'ont pas fonctionné.
Et en réalité, avec Chantal Arens, on a fait notre travail. Parce que, faut pas oublier que, moi, effectivement, je suis procureur général près de la Cour de justice de la République, mais je suis aussi procureur général de la Cour de cassation, et je suis président de la formation parquet du Conseil supérieur d'administration, avec Chantal Arens, qui est présidente de la formation siège. Et on a un devoir, nous, en tant que président du CSM. Le CSM, il est là pour aider le président de la République dans la préservation de l'indépendance de la justice. Donc en réalité, quelle a été nous notre réaction quand on a vu que le dossier n'était pas traité et que la haute autorité ne faisait pas son travail? On a fait une tribune, effectivement, pour appeler, j'allais dire, à l'aide et révéler et rendre publique une situation en espérant qu'elle serait traitée. Effectivement, ça a réveillé la haute autorité, mais c'était trop tard. Voilà, c'est tout. Donc c'est ça l'explication de la tribune. Alors après, moi j'entends bien effectivement le discours ambiant, hein, surtout après la décision de relax. On a dit effectivement, c'est Molins qui est coupable, c'est Molins qui est responsable, c'est à cause de Molins que tout ça est arrivé, à cause de la tribune, etc. Mais je veux dire, moi je suis pas responsable des conflits d'intérêts, hein. Le responsable, c'est M. Dupond-Moretti. C'est pas moi qui aurais dû les traiter. C'était au secrétariat général du gouvernement et à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Et les poursuites, c'est pas moi qui suis responsable de l'engagement des poursuites devant la CJR. C'est la commission des requêtes, je rappelle, hein, qui donne le feu vert aux poursuites devant la CJR. Commission des requêtes qui est composée de deux conseillers d'État, de deux conseillers Cour des comptes et de deux conseillers de la Cour de cassation. Donc c'est pas moi qui ai engagé les poursuites. Je n'ai fait que traduire dans les faits la décision de la commission des requêtes. J'étais obligé de poursuivre et cette poursuite... N'importe quel autre procureur général aurait été obligé, tout comme moi, de les faire. Parce que la loi l'y obligeait. Voilà.
Et vous n'avez jamais ambitionné d'être garde des Sceaux ?
Non. J'ai jamais ambitionné d'être garde des Sceaux. Et si on me le propose demain, ça sera non. Parce que c'est pas une ambition.
Bon, là, je vois que j'ai activé le côté, le caractère soupaulé se réveille. Donc, on va essayer de retomber un peu plus calme pour la dernière minute de ces entretiens. François Molins, je plaisante, bien entendu, mais on va évoquer rapidement un travail que vous avez mené à la Cour de cassation, parce que la Cour de cassation, c'est quand même le temple du droit.
Ouais.
C'est la plus haute fonction du parquet au sein de la magistrature que vous avez occupée de 2018 à 2023. Bon, on va l'évoquer rapidement, parce que d'abord, quand vous y êtes arrivé, ça a toujours une mauvaise réputation. Ça a la réputation d'être le cimetière des éléphants, donc c'est pas très rigolo quand on y arrive. Surtout que vous arriviez après le parquet de Paris, où vous aviez été sur tous les terrains extrêmement actifs et que là, vous avez quand même ressenti un immense vide. Mais bon, vous vous y êtes fait. Vous avez fait 5 ans à la Cour de cassation. Quelles actions y avez-vous menées dont vous êtes assez fier, on va dire ça comme ça? Content.
Alors d'abord, effectivement, on peut pas comparer avec des juridictions du fond, hein, parce que les tribunaux et les cours d'appel, elles sont co-gérées par les présidents et les procureurs, et les premiers présidents et les procureurs généraux dans ce qu'on appelle la diarchie. Ça n'existe pas, ça, à la Cour de cassation. Donc, un procureur général n'a pas le même effet de levier, la même influence qu'il peut avoir dans une juridiction du fond. Donc, il y a des choses, moi, que j'aurais aimé voir. Il y a des choses qui ont bougé au cours de ces 5 ans à la Cour de cassation, notamment sous l'influence de Chantal Arens, avec un certain nombre de réformes. Pour autant, c'est une juridiction qui change peut-être pas assez vite et qui, même si effectivement il y a des progrès, elle devrait s'inscrire plus dans le changement et dans la modernité.
Donc il y a des choses. À commencer par l'habit. L'habit lui-même est assez désuet.
Mais bon, l'habit c'est un symbole.
Mais c'est un symbole.
Pour être simplifié. Donc il y a des choses, moi, que notamment j'aurais aimé voir sur une nouvelle articulation des relations entre le siège et le parquet général, et avec un nouveau rôle du parquet général plus à la mesure de ses capacités et de ses compétences, qui n'est pas arrivé. Et ça, effectivement, je l'ai déploré, mais je pouvais pas faire mieux parce que j'avais pas l'autorité décisionnelle qui aurait permis de l'imposer. Donc, comme ça. J'ai quand même eu quelques actions intéressantes, hein, puisque quand on est procureur général à la Cour de cassation, on est président de la formation parquet du Conseil supérieur de la magistrature. Donc là, effectivement, je pense que j'ai œuvré pour que le CSM soit encore plus actif que dans le passé pour aider les magistrats et mieux participer à garantir l'indépendance de la justice. Et je pense qu'on a eu des résultats intéressants. J'étais vice-président du Conseil d'administration de l'École de la magistrature. Donc là aussi, on a essayé de faire des choses intéressantes pour continuer à ouvrir l'école sur l'extérieur. Et à la Cour de cassation, j'ai essayé de susciter un fonctionnement plus collectif du parquet général, hein, pour qu'il y ait plus d'échanges, plus de cohérence dans son action, qu'on soit plus, comme on disait, une fenêtre ouverte sur l'extérieur, qui nous mette en mesure de mieux aider la Cour à mieux comprendre et à mieux réaliser l'impact des décisions qu'elle allait rendre. Hein. Donc l'aider effectivement à mieux voir les choses et les problématiques en donnant des avis les plus efficaces et les plus pertinents possibles. Et j'ai dans ce cadre-là, moi-même, été amené à prendre plusieurs affaires devant l'Assemblée plénière de la Cour, je crois que j'en ai pris 5, avec notamment un dernier dossier qui m'avait beaucoup intéressé, où j'ai pu obtenir un revirement de jurisprudence qui a consacré effectivement la compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité, ce qui était effectivement un vrai besoin. Et j'ai eu cet office devant la Cour de justice, devant la République, puisque quand on est procureur général à la Cour de cassation, on est ministère public poursuivant devant la Cour de justice de la République, et où j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises, hein, puisque j'ai eu à requérir contre un ancien garde des Sceaux, M. Hervoas, hein, qui a été condamné pour violation du secret de l'instruction. J'ai eu à requérir dans l'affaire Karachi, où on a fait condamner M. Léotard, M. Balladur lui ayant été relaxé. J'ai eu à requérir contre M. Harif, qui a été condamné pour une infraction de favoritisme et de détournement de fonds publics. Et puis enfin, j'ai eu d'autres dossiers à l'instruction avec ces dossiers du pont Moretti, hein.
Donc vous n'avez pas chômé.
Ah, j'ai pas chômé. Et j'ai eu beaucoup de dossiers politiques devant la CJR.
Est-ce que vous ne regrettez pas, François Molins, d'être parti, puisque vous avez pris votre retraite le 30 juin 2023, après 46 ans au service de la justice, au nom du peuple français, comme vous le dites, est-ce que vous ne regrettez pas d'être parti à un moment où la justice est usée et fatiguée, et surtout est en manque de moyens, comme l'a très bien exprimé la tribune dite des 3000 dans le journal Le Monde en novembre 2021. Est-ce que ça, c'est pas, je sais pas, une forme d'amertume de...
Non, parce que c'est pas mon mode de fonctionnement, l'amertume, hein. Moi, je suis très fier et très heureux d'avoir exercé ce métier de magistrat pendant 46 ans. Parce que ça m'a passionné, hein, c'est un métier absolument extraordinaire, donc je regrette absolument pas de l'avoir choisi, et franchement, il n'y a aucune amertume dans l'état d'esprit qui est le mien au moment où je m'en vais. Je dirais que je suis parti partagé entre l'espoir et l'inquiétude. L'espoir parce que il y a effectivement des nouveaux moyens qui arrivent, hein, ça il faut le reconnaître. J'espère qu'ils vont pas être rognés par... les phénomènes de déficit budgétaire qui sont plus importants que ce qu'on pensait. L'espoir aussi, c'est quelque chose que je ressens quand je vois fonctionner mes jeunes collègues, hein, parce que je...
Vous continuez d'enseigner, hein, à Sciences Po, à l'Université catholique de Vendée.
Je crois beaucoup, moi, dans l'enthousiasme des jeunes.
Vous animez une association, Parlons Démocratie, avec des jeunes.
C'est eux, la justice de demain, et j'ai beaucoup d'espoir dans la foi et l'enthousiasme qui est le leur. La tribune des 3000 a eu raison, hein, parce que... Ils ont choisi ce métier parce que ce métier a du sens et il faut que ceux qui font gardent du sens. Et l'inquiétude, c'est effectivement, est-ce que les moyens sont suffisants? Parce que je sais, moi, que les moyens qu'on a reçus ne suffiront pas et qu'il en faudra d'autres. Et puis le deuxième sujet d'inquiétude, c'est la capacité du ministère à avoir une vision véritablement systémique qui lui permette de faire les réformes de fond et de fonctionnement dont on a besoin et que la Cour des comptes appelle de ses voeux depuis des années et des années. Et ça, si on veut réussir, il faudra passer par ces réformes de fond.
Bon, on arrive au terme de ces entretiens. François Molins, vous vous apprêtez à prendre vos valises et le train pour aller à Banyuls, voir votre maman, et vous revenez d'un week-end à la montagne, au ski, puisque ça, c'est une obligation, hein. Je sais pas si c'est ça qui vous aide aussi à gérer, ou vous a aidé à gérer le stress dans des moments difficiles de votre carrière, la montagne, mais vous y emmenez aussi, en colo, les jeunes qui sont vos jeunes étudiants. C'est cette passion dont on a déjà parlé, que vous avez découverte à l'âge de 30 ans. Vous dites que vous êtes plutôt rochassier que glaciériste. Alors ça, c'est vraiment des propos de spécialiste, hein.
Oui, mais en montagne, on fait de la neige, du rocher ou de la glace. Donc moi, j'ai fait 30 ans d'alpinisme, donc j'ai fait de tout. J'ai fait des grandes courses de neige, des courses de glace, des courses de rocher. Mais ce que j'aime par-dessus tout, effectivement, c'est l'escalade et le contact avec le rocher. L'escalade n'est pas la même suivant que vous grimpez sur le granit du Mont Blanc ou le granit corse, ou que vous allez grimper sur du calcaire, ou sur du grès, ou sur du gneiss, ou sur le ce qu'on appelle le poudingue de Riglos en Espagne. Donc c'est des sensations très différentes, et ça donne beaucoup de plaisir, en réalité. Donc, effectivement, je suis plus rochassier que glaciériste. Voilà.
Une dernière question, puisque vous parlez beaucoup des jeunes et de cette transmission qui vous tient vraiment à cœur. Je crois que la promo 2023 de l'École nationale de la magistrature porte votre nom.
Oui, tout à fait.
Eh ben, on terminera sur ce sourire.
C'est le plus beau cadeau, effectivement, que je pense que j'ai eu à mon départ à la retraite.
Merci beaucoup François Molins pour ces 5 entretiens.
Merci.
C'était À Voix Nue avec François Molins, réalisation Clémence Grosse, prise de son Fabien Gosset, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.